Vous ne m'aviez rien demandé, pourtant j'ai quand même décidé de me faire violence pour vous, et je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série dramatique américaine du nom d'Euphoria. Enfin, je vous en parle, créé par Sam Levinson. Ça a été diffusé depuis le 16 juin 2019 sur HBO, et il s'agit d'un remake de la mini-série israélienne du même nom. Je n'étais d'ailleurs pas du tout au courant, voilà, j'ai découvert ça tout à l'heure. La première saison a été très bien reçue par la critique, surcoté pour certains, ce qui n'est pas mon avis, car on peut au moins leur connaître sa direction artistique magistrale. Alors évidemment, c'est progressiste à gogo, mais disons que c'était dans l'air du temps par rapport à sa sortie. 2019, on était en plein dedans. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on revoit toutes les mêmes patterns à chaque fois, genre par exemple le fameux mâle alpha un peu violent qui est complexé par sa sexualité, et bien on revoit finalement exactement la même chose par exemple dans Sex Education. Toutes les thématiques abordées dans Euphoria ont été abordées dans toutes les autres séries teenagers sorties au même moment. Voilà, que ce soit sur Netflix, Prime Video ou n'importe où. Euphoria est la quatrième série la plus vue d'HBO, ce qui en fait un sacré mastodonte. Et si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la saison 3 vient de se terminer. Et récemment, j'ai sorti un sondage sur Instagram et YouTube. J'ai lancé Euphoria, j'ai adoré la saison 1, j'ai détesté la saison 2. Dois-je me forcer à regarder la saison 3 pour vous proposer une vidéo? Sur YouTube, la majorité a voté non. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que la question était mal posée. J'aurais dû simplement dire « Je vais regarder la saison 3 d'Euphoria quoi qu'il arrive, est-ce qu'une vidéo dessus vous intéresse ?» Le simple fait d'utiliser le mot « forcer » a fait croire en public que je me faisais du mal, alors que pas du tout. Étant donné que j'ai un trou dans mon calendrier, j'ai finalement décidé de vous en parler. Notamment sa saison 3, jugée comme médiocre pour certains. Et nous allons voir ici si c'est vrai. À noter que la saison 2 était déjà une épreuve pour moi, je me suis donc fait violence pour aller jusqu'au bout, sans aucun regret. Vous allez comprendre pourquoi. Et en parlant de me faire violence face à des projets qui divisent, c'est exactement le genre de débat passionné qu'on décortique en ce moment ailleurs que sur YouTube. Je viens tout juste de publier une vidéo bonus exclusive dans laquelle je réagis au dernier trailer du moment. L'Odyssée de Nolan va-t-il bider? On analyse aussi les premières images du prochain film Resident Evil.
On voit que les trailers sont dislikés assez massivement.
Avec un supplément fromage, House of the Dragon saison 3. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne et découvrir ce format réaction complet, le lien est disponible en description et en commentaire épinglé. Mais pour l'heure, revenons à notre série Drama Queen. La saison 1, à travers le regard de Roux, une adolescente tout juste sortie de cure de désintoxication, la série explore le quotidien tumultueux d'un groupe de lycéens qui navigue entre traumatisme, dépendance, quête d'identité et relations toxiques. Dans la saison 2, alors que les secrets destructeurs et les rivalités amoureuses fragmentent les amitiés du lycée, Roux replonge dans ses démons et se retrouve dans un engrenage financier et personnel de plus en plus dangereux. Et pour finir, dans la saison 3, propulsée dans l'âge adulte 5 ans plus tard, les anciens lycéens font face aux conséquences de leur choix passé, tandis que Roux tente de préserver sa foi et sa sobriété tout en étant rattrapé par les dettes de son passé. Euphoria est une série dramatico-érotique avec un aspect thriller. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai hésité à la regarder, car j'avais peur de tomber sur un genre de Elite 2.0. Finalement, c'est presque ça, sauf que c'est une production HBO. La série ira donc beaucoup plus loin dans ses thématiques, avec un style onirique envoûtant. Cela dit, je n'ai jamais vu autant de pénis, autant de formes phalliques dans une série. C'est hallucinant. Dès le visionnage des premiers épisodes de la première saison, le constat était sans appel. J'ai trouvé ça génial, hypnotique et aussi addictif que de l'héroïne. Ce qui colle parfaitement au comportement de Roux. Malheureusement, j'ai senti une fatigue sur son dernier tiers, une fois que la série a terminé de faire le tour des personnages principaux. La saison 2, elle, a très bien été accueillie, mais je ne l'ai personnellement pas du tout aimée. Celle-ci ne raconte plus rien d'intéressant. La seule intrigue sera basée sur le fait de savoir qui va baiser qui. Je vous jure que c'est vrai, mais elle conserve malgré tout son style propre à elle, qui m'a maintenu jusqu'à la fin, avec trois grands moments forts. L'épisode 1 avec Fesco et son frère, mon personnage préféré. L'épisode 5 avec une Zendaya totalement déchaînée, pour une fois. Et l'épisode 8 qui ouvre la porte à une saison 3 complètement folle. Le problème, c'est que cette saison 2 ressemble à une parodie de la première. On le ressent rien dans sa façon de résoudre le cliffhanger précédent, où le petit frère nous sort une prise tout droit sortie d'un film Marvel. Nate et son père ne font plus peur du tout. Tout ce qui était installé à l'origine se fait déconstruire dans sa suite. Non mais vous vous souvenez un petit peu de ce qui se passe à la fin de la première saison, une scène traumatisante où Nate se met à hurler à la mort. Ah 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 c'était signe que ce personnage allait passer à la vitesse supérieure dans sa dangerosité. Pourtant, la suite fait table rase de tout ça. Elle vient presque à nous faire oublier toutes ces scènes de manipulation. La manipulation avec Jules, la manipulation au commissariat. À la place, la série finit par transformer Nate en prince charmant un peu fougueux. Un petit peu comme si le créateur voulait répondre aux exigences des fans tombés amoureuses de lui en essayant de l'idéaliser un peu plus. Je ne comprends pas comment on ne peut pas être déçu par la saison 2 rien qu'avec ça. Beaucoup de gens sont dégoûtés de la direction de la saison 3 sans vraiment savoir que les changements avaient déjà été amorcés dans la deuxième. La seule chose qui a vraiment changé dans la troisième, c'est le visuel. Tandis que la saison 2 tournait en rond en répétant des arcs déjà abordés dans la première. Comme celui de Roux et son addiction, c'est une histoire qui avait déjà été racontée dans la première. Sauf qu'ici, les enjeux sont plus exagérés. Et le tout se finit sur un parallèle avec une pièce de théâtre que j'ai trouvé long à n'en plus finir, un brin cringe-ouillet. En bref, Euphoria s'est transformée en série expérimentale avec le temps, et je déteste ça. Je ne pense pas que la série soit surcotée. En revanche, j'ai tendance à dire que le jeu de Zendaya, lui, est surcoté, puisqu'elle se contente de jouer son rôle habituel de meuf complètement déchirée, au visage neutre. Je l'ai découverte dans Spider-Man Homecoming, et même dans ce film, elle a l'air complètement déchirée, avec un rôle de garçon manqué. Finalement, quand elle a reçu tous ses prix, j'ai l'impression qu'elle a surtout été récompensée pour la qualité d'écriture de son personnage. Pour parler de la saison 3, je pense qu'il est préférable de commencer par les bons points, dont le visuel. Les deux premières saisons avaient un ton cyan magenta. Cette saison 3 propose des tons beaucoup plus chauds, comme si elle cherchait à se rapprocher d'un Breaking Bad. On remarque également une image plus cinématographique, un format 2:20, filmé en argentique 35 et 65 mm. La photographie de cette saison est purement et simplement magnifique. Je me suis bien rincé les yeux sur ma télé 4K. Le style n'a plus rien à voir avec les deux premières saisons, et j'ai envie de dire que c'est pour le mieux car ça renforce le gap de 5 ans. De plus, le découpage est tout aussi créatif qu'à ses débuts, ce qui donne ce rendu aussi bizarre, mais dans le bon sens du terme. Ensuite, il y a le reste. Ce qui a déçu plus d'un, il s'agit en réalité d'un soft reboot. Les personnages sont là, certes, mais leur fonction est complètement différente. Si on prend la saison à part, elle peut être très intéressante. Mais dans la continuité de la série, elle peut faire très mal aux fans d'origine. On insère un humour pas des plus subtils, car il se contente d'un style pipi, caca, pro, dizzy, fesses. On aime, on n'aime pas, moi personnellement, je ne suis pas très fan. Je ne vais pas dire qu'il ne se passe rien, au contraire, il se passe 3 milliards de choses, c'est juste pas toujours intéressant. Ça part dans tous les sens et on ne sait pas très bien où va la série. Les enjeux mettent beaucoup trop de temps à décoller, c'était qu'à partir de l'épisode 7, de loin le meilleur de tous, qu'on comprend où les différents arcs cherchaient à nous emmener. En parallèle, Euphoria saison 3 va rigoler de tout. Des gauchistes, des droitards, des kékés en Tesla, d'Hollywood, du capitalisme, des cheveux bleus, du black power. En temps normal, c'est ce que je recherche dans une production subversive. Le problème, c'est que ça ne le fait pas très bien. Récemment, la seule série qui a réussi à faire ça brillamment, c'est Pluribus. Pour ma part, je déteste les fictions qui se veulent subversives en bombardant un maximum de références populaires qui fait le parallèle avec notre société. Et ce, sans savoir quoi raconter avec. Ce qui dérange, c'est que l'humour désamorce systématiquement les tensions. Dans l'épisode 3, on commence à voir un semblant d'enjeu sur une histoire de dette. Et là, on se dit, ah, ça va péter. Et en fait, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que l'arc de Nate n'est utilisé que dans un but comique. Mais son histoire reste totalement détachée des autres récits qui s'entrecroisent durant l'aventure. Il n'a aucune autre fonction qu'être utilisé comme MacGuffin, un peu comme s'il était un objet. Sans oublier que les personnages ont été écrits de façon satirique pour les rendre volontairement insupportables. Ce faisant, on se fiche complètement de savoir ce qui va se passer plus tard. Par la suite, j'ai été choqué de Sydney Sweeney dans le rôle de Cassie, qui prend mais vraiment extrêmement cher. Je ne comprends pas pourquoi l'actrice s'est laissée souiller son image à ce point. Après, encore une fois, c'est le but de cette saison. Tous les personnages ont été pensés pour dégoûter. Mais ce n'est pas parce que c'est fait exprès que vous êtes obligé de valider. Moi, personnellement, je ne valide pas la Cassie géante qui déballe sa marchandise en gros plan. J'apprécie l'idée, mais c'était juste de mauvais goût. Puceau. Alors je vais dire un truc extrêmement violent, et pour moi, le personnage de Cassie est vraiment un fantasme de gros puceau. Et encore plus dans cette suite. J'entends bien qu'elle a été écrite de sorte à se moquer des consommateurs d'OnlyFans. Et ça, je valide à 100%, bien que cette thématique a déjà été abordée dans la première saison avec Kat et ses fameux porcs Afrique. Pour changer de sujet, nous voyons les dernières apparitions d'Eric Dunn, déjà atteint de sa maladie de Charcot au moment du tournage, raison pour laquelle ses répliques sont plus courtes dans cette suite. Il est plus fatigué, limité physiquement et parle de façon plus faible. Évidemment, paix à son âme. Toute la partie avec Jules m'a beaucoup déçu. Ça donne l'impression qu'elle a été ajoutée pour ne pas frustrer les fans. Elle aurait mérité d'être mieux exploitée durant tout le long de la saison. Et pour finir, Colman Domingo en Ali est définitivement l'un des meilleurs personnages. Et c'est également l'un des rares à ne pas avoir été caricaturé dans cette suite. Il reste aussi tangible et réaliste que dans les premières saisons. Enfin bref, j'imagine qu'il y a encore tout un tas de choses à raconter, mais pour ça, nous allons devoir spoiler en parlant de l'épisode final. Ce grand final de la série se solde par une grande tragédie. Après avoir échappé de justesse au réseau de Laurie, Roux meurt d'une overdose causée par les pilules empoisonnées offertes par Alamo. En parallèle, Cassie et Mehdi se reconvertissent dans le business d'influenceuse, tandis que Jules tente de faire son deuil à travers une peinture pas très jolie en plus de ça, pour venger Roux, son mentor Ali abat Alamo dans son club de striptease avec la complicité de Bishop, avant de trouver une forme de rédemption spirituelle auprès de la famille religieuse qui avait apparemment accueilli Roux. Le tout s'est conclu sur un long épisode d'1h33. Alors, sur le coup, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de nous faire un épisode aussi long pour une saison où il ne s'est pas passé grand chose d'intéressant. Et contre toute attente, je me suis retrouvé face au meilleur épisode de la saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a l'épisode 7 et celui-là. Enfin, celui-là, il est carrément, mais il surclasse tous les autres. En revanche, j'ai pas envie de dire que c'est le meilleur épisode de la série parce que c'est trop différent. Ce qu'on a vu dans cette saison 3, c'est trop différent. C'est une autre série. C'est un peu comme ce que fait Fargo, American Horror Story, True Detective aussi. Cette saison 3 est très différente, mais pour le moins audacieuse, et je pense qu'on va développer un peu plus. Déjà, j'ai attendu de passer à la partie spoil pour vous en parler, mais il y a également la mort de Nate dans l'épisode 7, qui a choqué beaucoup de fans, mais pas moi. Moi, ça m'a pas choqué parce que, encore une fois, ce n'est pas le même personnage. Il n'a rien à voir avec ce qu'on avait installé dans les premières saisons. Il est juste utilisé comme MacGuffin, comme élément humoristique. Donc ça ne m'a pas choqué, parce que ce n'est plus le même personnage. Et c'est pareil pour plein d'autres personnages encore. Il y a quelques-uns qui sont vraiment restés fidèles, Roux notamment, ou même Ali. Mais Nate n'était juste plus lui-même dans cette saison. À ça s'ajoutent des méchants nazis pour conclure l'histoire, voilà, pour changer. Après, bon, c'est pas... Enfin, je trouve qu'encore une fois, cette saison est tellement original par rapport aux autres et se démarque tellement des autres séries qu'on sort aujourd'hui qu'ils ont choisi ça plus comme une sorte de ressort comique qui n'empiète pas sur la trame principale. Et on a aussi une énorme ironie qui va conclure toute l'histoire par rapport au personnage de Roux qui survit à une fusillade assez vénère mais finit malgré tout par mourir dévoré par ses propres démons. S'ensuit toute une session de fanservice, notamment avec le personnage de Fesco. Je me suis dit que c'est impossible qu'on le remette dans ce final. Et c'est là que j'ai compris qu'on était dans une sorte de séquence un peu spirituelle si on veut, un petit peu hypnotique, envoûtante comme les premières saisons, parce que je savais que l'acteur n'était pas casté pour cette saison, donc je savais qu'on n'allait pas le revoir. D'ailleurs, les plans qu'on voit sur lui ne sont que des silhouettes. À ça s'ajoute tout un tas de références bibliques, et c'est ainsi que Roux meurt. Mon problème avec cette série, et ce depuis la saison 2, c'est que j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que forcément, c'est une hallucination, ce n'est pas la réalité. Et en fait, si, ça a l'air d'être réel. Et ce, pour une raison très simple, c'est la fin de la série. Oui, ça, je vous l'ai pas dit, mais normalement, cette saison 3 est un final. On a un plan, on voit Roux lever le bras, comme si elle voulait se raccrocher à quelque chose, comme si elle attendait que quelqu'un rattrape sa main, et c'est vraiment ce que je pensais qu'on allait voir. Finalement, ça n'arrive pas, donc c'est évidemment fait exprès. Parce que ça nous rappelle que finalement, ce personnage est extrêmement seul dans cette saison. Elle est d'une solitude dévorante. Les seuls liens qu'elle tisse, ce sont avec des ennemis. On a Jules qui lui met une tarte dans la figure et qui finalement ne conclut rien avec elle. On a une relation complètement distante avec sa mère, une sœur absente, et ça justifié évidemment par l'absence de l'actrice. Il n'y a que le personnage d'Ali qui lui sert de repère dans son parcours. Sauf que visiblement, ça n'a pas été suffisant. Donc c'est comme ça que Foria a décidé de conclure son histoire. Il fallait que ça s'arrête parce que Zendaya, Jacob Elordi, Sidney Sweeney ou même Colman Domingo sont devenus des stars de cinéma. Ils n'ont plus le temps de jouer dans des séries. Et quand on parle de Lou, c'est justement Colman Domingo qui va porter le reste de cet épisode comme un chef. Le tout avec, une fois encore, un visuel impeccable, une réelle aux petits oignons, un découpage mais millimétré, chirurgical, un rythme parfaitement soutenu en termes de montage. Comme je m'y attendais, après un épisode 7 satisfaisant, ça surfe beaucoup sur la vague d'un western. Tarantino doit se lécher les doigts sur ce final, ça ressemble à 100% à un Pulp Fiction. Bref, autant dire qu'on ne s'est pas trop foutu de notre gueule sur ce final, ça fait plaisir. Aussi différent soit-il de ce qu'était Euphoria à l'origine. C'était donc la série Euphoria, les 3 saisons. J'avoue que je me suis fait un peu violence pour aller jusqu'au bout de la saison 2. Pareil pour la saison 3, il y a des moments où c'était un peu compliqué. Je me suis forcé pour aller jusqu'à la fin et force de constater que ça en valait la peine. Car, comme je l'expliquais dans cette vidéo, la saison 3 est très bonne si on la prend à part. Mais je ne pense pas qu'elle surpasse quoi que ce soit, c'est une autre série. Mais par contre, ce que j'ai apprécié avec cette saison, et plus encore sur son final, c'est que l'histoire ne fait jamais de surplace. Elle ne propose aucun retour en arrière. Elle ne fait pas ce qu'a fait, par exemple, la série The Boys. Là, on a une vraie conclusion. Même les acteurs absents, on s'est débrouillé pour faire en sorte de fermer leurs arcs. Je pense par exemple à Fesco. Et surtout, ça prend vraiment son temps. C'est calme, c'est fin, c'est délicat. La scène où Bishop lâche les balles par terre qui tombent sur la tache de sang. Enfin, chaque plan de cette saison est incroyable. Ils ont vraiment fait en sorte qu'on n'oublie rien, même s'il y a beaucoup de déceptions pour les gens qui ont été fans de cette série depuis le début. Mais là, je repense à des fins horribles comme The Boys, qui préparent tout pour des spin-offs. Au secours. Là, voilà, on se retrouve sur du HBO, le HBO que j'aime. Même si, attention, ça ne plaira pas à tout le monde et c'est pourquoi je vous invite à me faire part de vos avis dans les commentaires, comme à chaque fois j'y prêterai attention. Est-ce que cette fin était décevante pour vous? Est-ce que la saison entière était décevante? Ou est-ce que c'était le contraire? Certains préfèrent la saison 3 aux deux premières. Est-ce que c'était émouvant? Moi, je trouve que oui, c'était plutôt émouvant. Bref, on se laisse ici. Avant de quitter, n'oubliez pas le lien de mon Patreon pour découvrir ma nouvelle vidéo bonus, la réaction aux différents trailers. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.